je suis appelé à jouer le discutant ou le contradicteur. Alors c'est un magistrat austère qui va prendre la parole, puisqu'il paraît qu'on est austère chez nous. Alors je voudrais peut-être revenir quelques instants, parce que finalement vous n'avez pas parlé beaucoup de votre ouvrage, mais je me suis préparé, je l'ai lu, avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais quand même faire deux réflexions de base après la lecture de cet ouvrage. D'abord, c'est que l'art de la fable permet de dire des vérités, et des vérités qui sont, d'asséner des vérités assez percutantes. Alors, moi j'en retire, mais de façon plus générale, on reviendra sur le petit méchant juge. Finalement, vous n'êtes pas ni si petit ni si méchant, je ne pense pas, mais bon. Première chose, c'est de voir quand même comme le pouvoir et l'argent est capable d'instrumentaliser, et là je dirais au cours des siècles, les institutions. Et comme les institutions, le pouvoir, l'argent, c'est quand même aussi une capacité de pouvoir instrumentaliser, en ce compris le juge. Lorsque vous avez été très... plutôt le juge d'instruction sort bien de cette conférence, vous êtes heureusement, j'ai envie de dire, un peu plus sévère, en ce compris pour le juge d'instruction, dans votre ouvrage. Ça me semble important parce que ça donne... d'autant plus de crédit. Et par ailleurs, c'est comment, quand même, toutes sortes de... je les qualifie de pions, mais ils ne le sont pas normalement. Comme toutes les personnes qui incarnent ces institutions sont prêtes à se montrer très serviles par rapport à ce pouvoir, et finalement sans grande raison. Pourquoi un président du tribunal va tout à coup suivre le sens du vent, alors que... soyons clairs, il pourrait gagner autant de crédit en peut-être s'y opposant. Mais qu'il y a quand même une tendance de tous les postes intermédiaires à quelque part s'inscrire davantage dans l'ordre établi que contre l'ordre établi. Et là, je vous engage vraiment parce que toute la perspective historique, je trouve, permet de donner encore davantage de crédit à cette analyse. Alors, vous dénoncez aussi... moi, je parlais toujours de la justice à deux vitesses, mais j'ai constaté après votre livre que vous parlez d'une justice à trois vitesses, puisqu'il y a les petits, ça tout le monde sait, les petits, et ben, en Belgique, c'est, je crains, aussi une réalité. Et puis vous mettez dans une catégorie intermédiaire les mafieux. Les mafieux, en disant, ça, ils ont quand même des moyens, ils ont quand même des moyens, et ceux-là sont un peu, d'ailleurs c'est les maisons, les mafieux, c'est les maisons de paille, hein, pour les trois petits cochons.
Les petits cochons, c'est maison de paille de Tudam, les mafieux, c'est maison de bois, et le château de
pierre, ceux qui détiennent le pouvoir. Enfin, je vous poserai peut-être, mais ça en aparté, ça ce sera. C'est qui est Dieu, c'est qui est le patron. Moi je le situe comme Dieu, mais. Voilà. Alors, votre juge d'ailleurs dans votre ouvrage, il apparaît comme. On lui pose la question un peu cynique, alors il répond, mais non, je suis réaliste, désabusé. Alors là, j'aimerais peut-être un peu vous entendre sur le désabusé, parce que vous ne m'êtes pas apparu trop désabusé, même si vous faites face à pas mal de difficultés. Et alors aussi, petite question peut-être aussi, le juge est très nostalgique des années, des 2-3 années de 1989. Oui. Là, j'aimerais bien que vous me disiez un peu davantage pourquoi. Je sais qu'il est amoureux de Marianne. Mais au-delà de cela, il y a quand même une nostalgie qui n'est pas tellement explicite dans l'ouvrage, de vraiment en quoi cette période-là paraissait vraiment une période, je dirais, de bonheur pour ce petit juge. Alors, j'en reviens peut-être alors plus à la figure du juge d'instruction, et là je trouve que vous avez peut-être donné davantage de réponses que dans votre ouvrage, c'est sur la question de la solitude, qui pour moi est à la fois sa force, mais à la fois sa faiblesse. Alors finalement, si j'analyse un peu votre exposé, surtout la finale, ben, il n'est finalement pas si seul que ça, puisqu'il peut quand même faire la co-saisine, et ça je trouve que c'est important, parce que bon, on dit toujours un homme seul est un homme en mauvaise compagnie. Et donc je pense qu'effectivement, pouvoir compter sur des collègues, ça me semble très important, pas pour tout, mais pour en tout cas les affaires principales. Je vois quand même que les victimes ne sont pas sans moyens à l'heure actuelle, sans moyens en tout cas en termes de mobilisation. Nous vivons aussi d'ailleurs un mouvement de victimes très important ici. Il y a également la presse, vous l'avez soulevé. Et alors j'ai quand même envie de dire l'opinion publique. l'opinion publique est quand même un vecteur, me semble, important d'équilibre dans une société, d'autant plus, et vous le soulignez, que ceux qui habitent le château, ceux qui ont le pouvoir, sont très sensibles avec l'opinion publique, mais en fait, les opinions publiques. Parce qu'on dit toujours l'opinion publique, c'est une opinion, mais non, c'est une diversité d'opinions, on sait, avec des groupes qui peuvent effectivement défendre des intérêts différents. Alors, venons-en au... Parce que je pense que le nœud du problème est là aussi, vous le dites d'ailleurs, au moment où on touche la question de... Chez nous, elle risque d'être fort d'actualité, juge d'instruction, juge de l'instruction. La vraie question, et vous la posez dans votre ouvrage, c'est par quoi Par quoi remplace-t-on le juge d'instruction? Le juge d'instruction a sûrement beaucoup de défauts, on est bien d'accord, mais par quoi le remplace-t-on? Alors, par rapport à la position du parquet que vous avez décrite, je pense que... Dans notre environnement, c'est assez différent. En tout cas, on n'a pas cette référence à chancellerie. Vous avez parlé, surtout quand vous avez parlé du parquet, ça remonte jusqu'à la chancellerie. Alors, chez nous, ça remonte jusqu'au procureur général, on a un spécimen ici présent. Je pense pouvoir dire que cette séparation, chez nous, et c'est lié sans doute à l'opinion publique, c'est très mal vu que quelque part... un politique vienne directement s'immiscer dans un dossier. Et plutôt, il va s'en défendre. Il va le dire haut et fort, et va, je crois, dans les faits, parce que si ça devait se révéler, on a quand même eu un Premier ministre, un ministre de la Justice, qui ont dû démissionner, parce qu'ils étaient soupçonnés d'être interférés dans une affaire civile, en plus. Bon, petite affaire, on est d'accord. Mais donc, il y a une sensibilité de l'opinion très importante. Mais en revanche, ce qui... pour moi, est la faiblesse, ou plutôt le problème du parquet. Ce n'est pas tellement donc, son indépendance par rapport à un pouvoir politique qui est inscrit dans notre Constitution. Hein, l'indépendance du parquet par rapport... Donc, on a quand même ce mérite-là. Mais c'est la question des moyens. Alors, le manque, pour rendre quelqu'un impuissant, vous le noyez. Vous lui privez les moyens, vous le submergez par les tâches. Et quelque part, noyer, ben, c'est une façon, effectivement, de ne plus quelque part avoir la maîtrise de tout le contentieux qu'il est appelé à... Et puis la police. Alors là, la police, je suis très étonné d'entendre que la police pouvait vous couper les pattes et les ailes de cette façon-là. Je crois qu'il n'y a eu qu'un précédent chez nous. Pourquoi? Pour aussi cette question de séparation des pouvoirs. C'est que ce serait très mal, parce que là, c'est flagrant. L'interférence du pouvoir, chez nous, ça poserait de suite un gros problème par rapport aux autorités qu'il aurait données. Mais je veux dire, pas un gros problème tellement au point de vue disciplinaire, au point de vue opinion publique. Mais ce qui est la réalité, nous, la police judiciaire qui était auprès des cours et tribunaux, on l'a connue. Puis on a connu la réforme. Et au niveau de la police, mais c'est vrai qu'il y a là une montée en puissance. Avec un corps de police unique, on a voulu supprimer la concurrence. Mais la concurrence a quelque chose de sain hein, aussi. Hein, la concurrence entre les services, on sait qu'il y avait aussi une certaine stimulation à travers la concurrence. Et donc la question, c'est qu'on a là le même sentiment que vous, nos alliés, juges d'instruction, les alliés principaux, ce sont les policiers de terrain. Par contre, les hiérarchies, le problème, c'est que la logique hiérarchique est devenue complètement administrative. Il faut être un bon manager. Un bon supérieur policier, c'est celui qui gère ses hommes, pas trop d'heures supplémentaires, on reste dans les budgets, les moyens. Je rappelle que la finalité judiciaire devrait être d'élucider des affaires. Ça ne rentre plus du tout dans le cadre des hiérarchies. Et là, la montée en puissance alors des policiers de cette dimension managériale met en péril, à mon sens, les capacités alors d'action du juge d'instruction. Alors, pour ne pas être et laisser la place au débat, j'ai quand même un élément sur lequel, là, je souhaiterais avoir une réponse. Je trouve que le juge du fond est étonnamment absent. Absent. J'ai quand même, mais même dans votre ouvrage, mais même dans votre discours, alors qu'il me semble qu'il y a là aussi un défi énorme à relever. Le juge d'instruction peut être le meilleur, faire la meilleure instruction, si après, ça ne suit pas. Et là, on sait que le parquet... peut-être un élément comme déterminant, c'est lui qui porte l'accusation. Si après, et là vous n'en parlez pas tellement non plus, la pression légale que constituent les avocats, c'est une pression tout à fait légale. Mais ça pèse. On le sait au niveau des juges d'instruction que les avocats, ne fût-ce que par les recours, etc., peuvent peser très lourdement sur les instructions. Mais on sait, et c'est le gros défi, et je pense qu'en France c'est quand même la même chose, c'est la lutte contre le temps. Et que ces affaires qui durent 10 ans, 15 ans, et je pense que vous êtes confrontés à la même difficulté, avec après le délai raisonnable qui vient sanctionner en disant finalement les peines deviennent symboliques. Pour moi, enquêter, oui, est un enjeu, mais juger est un enjeu, me semble-t-il, de taille aussi. Voilà quelques réflexions qui permettent peut-être d'ouvrir un peu le débat. Et puis bon,
sur le juge du fond, c'est sûr que la finalité... Alors, je vais mettre un petit bémol. Justement, dans les affaires très complexes, qui sont embarrassantes pour tout le monde, et avec une procédure pénale aujourd'hui qui permet vraiment de ralentir le cours de la justice, si on veut, clairement. C'est vrai qu'il y a ces facultés de faire des demandes d'actes qu'ont les avocats en France. Ils déposent au greffe des demandes diverses, expertises, auditions, etc. Le juge d'instruction, s'il n'est pas d'accord, une ordonnance, susceptible d'appel, chambre de l'instruction, etc. Bon, bien souvent, il essaye, quand c'est raisonnable, il fait droit aux demandes d'actes. Mais vous imaginez, dans un dossier très conflictuel, avec des grands cabinets d'avocats, tout est possible. Moi, j'ai connu des témoins miracles qui arrivent au bout de 20 ans, comme ça, boum, alors qu'ils disent « j'étais là ». Bon, on peut vous monter ce qu'on veut. Et on peut arriver à ce que les instructions ne se terminent jamais. Il y a cet effet-là. Or, en matière économique et financière, politico-financière en tout cas, on a des délais de jugement qui sont phénoménaux. C'est-à-dire que, prenons une histoire qui est grave pour une démocratie, qui vient d'être jugée, qui est fraude électorale, simplement. C'est classique. Hein. Les faux électeurs à Paris, enfin, peu importe. 15 ans pour juger. Et quand on juge au bout de 15 ans, donc des fraudes électorales massives, ça se termine avec du 2 ans avec sursis, etc. On ne sait plus ce qu'on juge. C'est-à-dire, on juge quelque chose qui porte complètement atteinte aux démocraties. Quand je parlais de laxisme judiciaire, je ne faisais pas référence au juge d'instruction. C'est grosso modo à la faillite du système qui fait que les instructions longues finissent par des peines très symboliques dans cette matière particulière, puisque dans les matières de grande criminalité ou les matières de petite criminalité, je suis beaucoup plus rapide. D'abord parce que les gens vont en détention provisoire, donc ils sont un peu plus pressés d'être jugés que ceux qui sont dehors. Et puis il y a les comparutions immédiates, il y a tous les circuits hors juge d'instruction qui permettent d'aller assez vite. Mais dans ces délinquances complexes, en col blanc, c'est vrai que les personnes ont tout intérêt à faire durer le maximum, et plus le temps passera, moins la peine sera lourde et plus déconnectée de l'électeur, j'allais dire, en l'occurrence. Le juge du fond, c'est une finalité, oui et non. Ça va vous paraître assez curieux, ce regard juge d'instruction. Mais il y a eu beaucoup d'affaires en France qui ont été instruites et qui ont mis sur la place publique des vrais problèmes de société. Moi, je pense au sang contaminé, l'amiante, des choses comme ça. Où des collègues ont travaillé pendant des années, ça a entraîné des changements de législation. Le fait de mettre sur la place publique ces choses-là, de mettre en examen, des poursuites, alors qu'on a quasi jugé personne. Enfin, en matière d'amiante, on n'a jugé personne. En matière sans contaminer, oui. Mais il y a eu l'effet social induit par le fait que c'est connu, c'est devant la justice, il y a des gens mis en examen, des journalistes qui s'y intéressent, des émissions de télé, des législateurs qui statuent, on désamiante les édifices. Le résultat social, l'utilité sociale de l'enquête, n'est pas négligeable. Même si au bout du compte, bon, bah, il n'y a pas de peine ou les gens pas jugés, etc. Donc je pense que la justice n'a pas que pour utilité de juger, en fait, d'avoir un jugement au fond final. Elle a une utilité sociale de changer des comportements contraires à la loi, des économies souterraines qu'on démontre. Donc ça, le juge d'instruction y arrive relativement bien avec le relais opinion publique, journaliste. L'opinion publique, c'est global. Les victimes, c'est effectivement quelque chose de très important en France, mais c'est lié à l'opinion publique, en fait. On parle beaucoup des victimes parce que les médias sont là, vont interroger les victimes, parce que c'est horrible d'être victime en matière de terrorisme, c'est très prégnant aujourd'hui. Maintenant, moi, c'est vrai que les victimes sont un allié du juge d'instruction par l'impact qu'elles peuvent avoir. Mais c'est aussi une pression énorme. Croyez-moi, dans mes dossiers, je réunis les victimes, parties civiles, au moins une fois par an. Bon. Alors quand vous en êtes à l'âge septième réunion dans Karachi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont 86, c'est parti civil, on prend un amphi. Hein. que où vous en êtes, etc. Bon, vous êtes là, vous leur rendez des comptes, c'est vrai, mais vous rendez des comptes à une partie, finalement, qui est très exigeante et qui vous met une pression énorme dessus. La partie civile, la victime roi dans une procédure, est aussi un danger. C'est-à-dire que c'est une pression très importante sur la justice. Il faut faire attention aussi à cet équilibre qui peut être rompu et qu'on retrouve lors des jugements sur le fond. Parce que aujourd'hui, dans les affaires sensibles, le juge du fond, après qu'il y ait eu une instruction, il n'est pas seul face à un procureur éventuellement taisant. Il y a les victimes, les parties civiles. Et Dieu sait qu'il y a certaines audiences, elles sont beaucoup plus pugnaces à porter l'accusation que le procureur lui-même. Je parlais de Jacques Chirac. Quand vous voyez un procureur qui se lève et qui explique pendant une heure pourquoi il faut faire un relax, si vous voulez, on a rarement vu un procureur s'évertuer à ne pas poursuivre avec trop de panache. Et qu'après, vous voyez les parties civiles qui expliquent pourquoi c'est caractérisé les faits, etc. Vous ne savez plus qui fait quoi, quand même, hein, quel est le rôle des uns et des autres. C'est pas tellement évident de situer exactement le rôle de chacun. Donc, les parties civiles se substituent, effectivement, y compris à l'audience, au fond, au procureur. Maintenant, vous avez des procureurs qui ont été capables, très clairement, de faire preuve d'indépendance, sans d'ailleurs avoir eu des conséquences abominables. D'abord, il y en a qui l'ont fait parfois en désaccord avec leur propre procureur. Je parle des gens du parquet. D'ailleurs, je parlais de Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre, dans l'affaire Urba, a pu instruire parce qu'un substitut avait fait un supplétif sans aviser son procureur. C'est quand même pas anodin. Et que la Cour de cassation a venu dire un substitut, parquet indivisible, peut faire un supplétif sans aviser son procureur, c'est pas un supplétif nul. Sur supplétif, c'est pour soit sur des faits nouveaux, c'est notre problème récurrent, puisque vous instruisez, vous découvrez d'autres choses. Vous instruisez sur des favorisés de marché public, vous découvrez qu'il n'y a pas de marché public là, il y en a d'autres, lors d'une perquisition. Comme c'est un fait nouveau, vous devez être à nouveau saisi par le procureur, ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif. Bon. Sinon, si vous n'êtes pas saisi, vous ne pouvez plus inscrire sur ces faits nouveaux. Là, l'enquête s'arrête. Il faut que les parties civiles, s'il y en a, s'il y a des victimes ou des associations pour se constituer, fassent à nouveau une plainte à la convention de partie civile qui va mettre 3 mois, qui va après être. Ouais, le truc, la lourdeur et la perte de temps est importante. Donc on a surtout besoin d'avoir un parquet, on sache quel est le rôle, et aujourd'hui, un procureur dans une affaire sensible a même plus l'opportunité d'avoir un avis. Car imaginons même que ça soit fondé, sa décision de non-poursuite. Si c'est une affaire qui touche une personnalité, s'il ne poursuit pas, à rebours, on va dire, c'est parce que c'est politique et qu'il a eu consigne. Donc il perd sa liberté totale, puisque, à la limite, de toute façon, on ne croira jamais qu'il est de bonne foi. D'où l'urgence de régler une bonne fois pour toutes le statut du parquet. En Belgique, il y a un statut d'indépendance, mais nous, textuellement, ce n'est pas le cas. Il rappelle quand même que Rachida Dati avait dit « Je suis la chef des procureurs ». C'est elle qui l'a dit, elle garde des sceaux. Bon, « Je suis la chef des procureurs ». D'ailleurs, elle a muté d'office de procureur généraux. Donc, on ne peut pas gommer ça. Donc, ça reste inscrit là-dedans. Maintenant, le grand mystère, le point d'interrogation, c'est pourquoi, quand on est juge du siège hors hiérarchique, qu'on n'a pas grand-chose à attendre théoriquement, pourquoi on accepte de répondre aux sollicitations du pouvoir. J'ai connu des chefs de juridiction qui manifestement y répondaient. Pourquoi? Eh bien, c'est de l'atavisme. Je parlais de l'histoire des juges. Quand vous savez, quand on vous remet la Légion d'honneur, que vous êtes invité pour les vœux de bonne année à la chancellerie, que vous serrez la main du ministre, qu'ils viennent à l'audience solennelle de rentrée, qu'on va boire un coup après au pot d'honneur, après, etc. La proximité entre ces hauts magistrats et les représentants du pouvoir de la chancellerie, les réunions de travail, puis on vous donne le président d'un groupe de travail à la chancellerie, tout ça fait un truc qui fait que cette affaire-là, quand même, là, il exagère, là, le petit méchant juge, il faudrait peut-être, voilà. Bon, j'ai mis dans mon livre des exemples de collègues qui ont été poursuivis dans le Conseil supérieur de la magistrature. Heureusement, d'ailleurs, l'accès en disciplinaire. Ça a été la méthode, à un moment donné. Et vous savez que le premier président de la Cour d'appel a ce pouvoir de saisir le CSM, il n'y a pas besoin que ce soit le ministre qui fasse, pour poursuivre un magistrat. Ça a été fait. Je pense à Patrick Ramael, qui est un juge d'instruction que j'apprécie, qui vient de partir d'instruction, mais qui pendant des années a instruit à Paris des affaires. Il a été dans le collimateur le jour où il a lancé des mandats d'arrêt contre des proches du roi du Maroc, Ben Barka. Et comme il y avait Nicolas Sarkozy qui était au Maroc justement à ce moment-là en train de manger les cornes de gazelle, il a failli s'étouffer, ce que je racontais. Il est revenu, il a dit « je veux sa peau ». Il se retrouve avec une inspection des services judiciaires dans son cabinet. Ça, c'est la chancellerie. C'est-à-dire que la chancellerie, mise à justice, peut toujours envoyer l'inspection des services judiciaires contrôler l'activité d'un juge. Donc, il se retrouve avec ce service qui dépend de la chancellerie, qui n'a rien à voir avec la hiérarchie salaire-service de la chancellerie. Il se retrouve donc avec l'inspection des services judiciaires qui va contrôler son cabinet, qui, bon, ben là, il y a de la poussière. Là, je sais... pourquoi ? Parce que c'est simple, hein, il suffit, tous les cabinets ont quelques dossiers en jachère, qui...
Le secret de l'instruction, voilà.
Ah non, l'inspection des services judiciaires, c'est pas sûr, c'est simplement le dernier acte, il est fait depuis quand dans ce dossier, pourquoi ce dossier, vous n'avez rien fait depuis un an dans ce dossier, pourquoi les commissions rogatoires ne sont pas rentrées depuis deux ans dans tel autre, c'est purement statistique, c'est l'inspection des services judiciaires. Avec ce rapport-là, on peut vous poursuivre dans le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, heureusement, il y a une résistance, là, par contre, du corps très importante, des syndicats ou des associations comme la mienne. Patrick Ramel, par exemple, statistiquement, on a démontré que son cabinet était nettement mieux tenu que la plupart des cabinets des collègues. Tout le monde y a participé, d'ailleurs, c'est-à-dire que les actes en cours, etc., que, c'est, bah oui, on est dans une société où, parfois, les policiers ne rendent pas leur commission obligatoire pendant deux ans, et que c'est vrai, que c'est généralisé, et puis c'est public, l'audience. Le problème, que ce soit public, il y a des médias, il y a tout ça. Et quand vous expliquez publiquement à l'audience, parce qu'il peut se faire représenter par les collègues, que non, non, il est là uniquement parce qu'il a lancé des mandats d'arrêt contre le proche du roi du Maroc, tout le reste c'est du foin, qui était parfaitement noté, qui n'avait aucune idée, et que le jour où il a fait ça, il a le droit d'une inspection de service judiciaire, et après des poursuites devant le... Il a été relaxé. Mais vous voyez, on est quand même dans un conflit qui est quand même très fort, très, très violent. C'est très violent, il faut... C'est vraiment... Alors c'est apaisé actuellement, mais ça peut parfaitement revenir. Bon. Il y a une violence que vous ne connaissez pas en Belgique, mais qui est inhérente d'ailleurs à la violence du politique chez nous, sans doute, et à toutes ces années là de voilà. Et je crois que le politique, très franchement, a tellement été habitué justement à la servilité de la magistrature qu'il supporte très mal quand ça lui échappe, quand quelque chose qui lui échappe, comme ces affaires là. Et tous ceux qui sont inscrits dans une tradition vieille de hauts fonctionnaires, les magistrats sont des hauts fonctionnaires en robe rouge et qui sont très liés au pouvoir, qui attendent de l'avancement de ce pouvoir. Vous comprenez bien qu'il y a des logiques de magistrats qui s'affrontent dans le corps. Ce n'est pas une question de siège parquet. Par exemple, j'ai connu Eric de Montgolfier, qui était un procureur parfaitement indépendant. Voilà. J'ai connu, quand j'étais juge d'instruction à 25 ans, je vais raconter, vous allez voir. J'avais besoin d'un réquisitoire supplémentaire dans une affaire qui justement était financière, et je vais voir le procureur et je lui dis, et je lui dis, voilà où on en est là, j'ai fait nouveau, mais il me faut un supplétif, voilà, ça va nous amener là, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça a été assez rigolo, le procureur a fait ce rapport d'affaires signalées, qui se termine par « je ne manquerai pas de vous tenir informé » ou « sauf meilleur avis de votre part, j'envisage de... » Déjà, c'est marrant d'écrire ce genre de truc. Bon, « sauf meilleur avis de votre part. » On se demande. Et donc, il l'envoie, et puis bon, bah, généralement, ça passe par parquet général, ça va à la chancellerie, donc le temps de latence est de 3 à 4 jours avant que ça redescende des consignes. Est-ce qu'il le faisait, est-ce qu'il l'a fait dans ce dossier-là? Il m'a dit, écoute, j'envoie le rapport, je vais attendre simplement 24 heures, je te fais le supplétif. Et évidemment, quand tout de suite, ça a téléphoné au bout de deux jours, en disant, bon, non, mais il ne faut pas faire un supplétif, et que c'est que ces conneries, etc. Ah, désolé, j'ai déjà fait. Non, il y en a qui passaient volontairement pour abruti, pour voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent non. Parce que la loi française dit qu'on peut avoir des consignes de poursuite, mais jamais des consignes de non-poursuite. C'est la loi. Donc, et après, il y a des procureurs qui sont capables de dire non, c'est-à-dire que je ne classerai pas sans suite cette affaire, je vais poursuivre.
Et oui. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui a été votée par Hollande, oui. Une des promesses, oui. Qu'il a tenues, peut-être la seule, mais
oui.
Disant que le garde des Sceaux ne pouvait plus adresser d'injonction individuelle.
Mmh, oui, tout à fait. Bah oui. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des consignes. On n'a jamais vu une injonction écrite dans un dossier. Donc c'est vrai que ça a toujours été un peu la règle, puisque de toute façon la loi disait, c'était l'article 36 du Code procédure pénale, disait que les seules consignes autorisées par la loi, c'est donc de poursuite. Et qu'elles doivent être écrites.
Versées au,
voilà, d'injonction positive, et qu'elles doivent être écrites et versées au dossier. Bon, là, maintenant, effectivement, il ne censait plus y avoir de consigne du tout, mais de toute façon, on n'avait jamais vu un seul écrit, ou ça a dû être rarissime, écrit donnant un ordre au procureur de poursuite, et encore moins de non-poursuite. Ça a toujours été oral, ça a toujours été il n'est pas très opportun, mais bien sûr, la décision vous revient, cher collègue, qu'en pensez-vous, patata. Oui, je crois que vous avez raison, c'est pas très opportun. Non, mais ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que toutes les lois qu'on fera.
Par téléphone, il y a eu autre chose comme ça. Oui,
voilà, toutes les lois qu'on fera interdites. Mais par contre, ça renforce l'idée que si un procureur veut dire non, il le peut parfaitement légalement et qu'il n'aura jamais aucun problème devant le Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il va appliquer la loi. Il va dire, oui, j'ai refusé, mais comme la loi dit qu'on ne doit pas me donner l'ordre, je ne vois pas comment je serai. Donc il n'aura jamais aucun problème, je suis d'accord. Il aura un problème d'avancement, un problème. La carrière est faite par la chancellerie, clairement, hein, et pas que pour le parquet. Parce que contrairement à ce qu'on pense, même pour les juges du siège, il faut quand même être sur la transparence qui est présentée devant le CSM, même si c'est un délit conforme, etc. C'est purement, et des gens comme Montgolfier ont pu faire une belle carrière tout en se laissant pas faire, donc il y en a qui arrivent aussi, voilà. Mais bon, disons qu'en tout cas, malgré tout, il y a ce problème d'information. La technique n'est pas inscrite dans la loi de devoir faire des rapports d'affaires signalés, d'informer du contenu d'un dossier, pose un problème, et de façon récurrente, c'est-à-dire à partir de quand on dépasse le problème d'informer. Combien de détails il faut mettre sur un dossier d'instruction sans violer le secret de l'instruction, alors que ça va arriver sur le bureau du ministre, qui n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans le dossier. Ce sont des incohérences. Notre article sur l'instruction, il s'applique y compris au ministre de la Justice. Or, on a cette pratique, et moi je la connais, puisqu'au parquet antiterroriste, je passais mon temps à faire des rapports d'affaires signalés. 100% des affaires étaient signalées. Et je passais mon temps à attendre des consignes. Si je me permets d'écrire ça et tout ça, c'est parce que j'étais au parquet antiterroriste. C'est-à-dire que tout le monde sait que quand je le dis, je connais l'intérieur. Et quand il y a eu des débats sur la suppression du juge d'instruction, et j'ai eu des débats avec des collègues, et je me souviens d'un débat avec Courroie, c'est pour dire. On était à Sciences Po Paris, il était à fond pour la suppression du juge d'instruction, qu'il a été brillamment d'ailleurs, avant de passer au parquet de Nanterre. Il était pour la suppression, tout va bien. Et il dit, mais 10 ans, il était procureur de Nanterre maintenant, et qu'il n'avait pas de consigne. Je lui dis, mais bon. Donc je lui dis, mais pourquoi on ne parle pas aux étudiants de Sciences Po des rapports d'affaires signalés? On va leur parler, on va leur dire. Toute affaire un tout petit peu sensible, on écrit, on dit exactement où ça en est, où on est l'enquête, ce qu'il y a dans le dossier, etc. On l'envoie et ça finit sur la table du ministre. Donc ça, c'est quoi? Et c'est des pratiques, c'est de la cuisine, quoi. C'est des pratiques.
C'est de la violation de secret
professionnel. À grande échelle.
Organisée.